Ils sont tellement peu nombreux, ces cantiques des rameaux, qu'on les chante chaque année, et que si nous ne les connaissons pas, nous finirons bien par les apprendre un jour. Si Stéphane Bern, des journalistes spécialisés dans les histoires de la cour ou dans les événements pompeux pendant lesquels s'affichent les têtes couronnées, si les chasseurs de rois et de reines s'étaient trouvés il y a plus de 2000 ans aux alentours de Jérusalem, ils se seraient livrés pour autant qu'ils l'aient daigné à un bien étrange commentaire sur l'entrée d'un certain roi des Juifs à Jérusalem. Au lieu de l'étiquette et du protocole des cérémonies royales, toujours hautement solennel, réglé à l'extrême précision, ils auraient baigné dans l'atmosphère étourdissante d'une kermesse. Ils auraient été secoués par une fête foraine, une fête populaire improvisée par une foule en liesse. Secoué, nous suggère le texte, comme un tremblement de terre qui exprime sa joie par des moyens primitifs et loufoques. L'exclamation « Hosanna », au départ une prière qui signifie « Sauve, je te prie », qui, à l'instar de celle d'Alléluia, est dans notre texte un cri de louange. Elle nous rappelle que la joie, c'était une des caractéristiques fondamentales des fêtes juives au temps de Jésus. Il s'agissait d'une joie populaire, proche de l'extase et de la frénésie, une sorte de joie de carnaval, à laquelle se mêlait l'ardente, la fervente attente d'un Messie, d'un libérateur du peuple. Et c'est autour de la figure de cet homme qui est quasiment inconnu à Jérusalem, assis non pas fièrement sur un cheval ni sur un éléphant, mais humblement sur un âne, que dansent les rêves de restauration politique. En effet, on croit qu'il va chasser les Romains, on croit qu'il va châtier les méchants et inaugurer le règne de Dieu. Le peuple projette en fait sur Jésus tous ses espoirs. Le groupe qui est secoué de liesse, qui est secoué d'allégresse autour de cet homme monté sur un âne, est devenu une énorme foule de plus de 100 000 personnes. Nombre approximatif des pèlerins qui se rendaient à Jérusalem lors de la Pâque. Une foule dont la plupart des gens accueillent Jésus comme un roi, avec des honneurs extraordinaires en jonchant de rameaux spontanément coupés aux arbres et de leurs manteaux le chemin où cet équipage apparemment ridicule s'avance. Stéphane Bern aurait été bien dépité, voire méprisant, en voyant quelques jours plus tard sur la tête de ce roi d'un jour qui a provoqué beaucoup de tumulte pour rien, une vulgaire couronne d'épines. Quelle fin pitoyable et terne pour une fête qui est si gaie et si colorée. Le récit que nous fait Matthieu de cette entrée de Jésus à Jérusalem est tout autre chose qu'un reportage objectif. C'est toute la foi des premiers chrétiens au roi débonnaire et souffrant qui s'y exprime. De plus, dans la structure de cet évangile, Matthieu donne à ce récit une place qui est bien marquée à l'intérieur d'une cinquième et dernière partie destinée, selon un commentateur, a présenté la crise par laquelle ce monde passera du royaume inauguré mais encore caché à celui du royaume définitivement manifesté. Il convient de souligner que c'est Jésus lui-même, c'est Jésus qui prend cette initiative de cette mise en scène pour le moins surprenante, d'arriver dans sa ville en tant que roi messianique dans l'équipage apparemment dérisoire et absurde d'un roi débonnaire, humble et doux. Cette entrée, elle ne lui est pas imposée par une quelconque nécessité ou par une quelconque contrainte. Le texte laisse entendre que ces détails étaient prévus depuis toujours dans le dessein de Dieu. Le Messie attendu par les Juifs pieux n'avait pas que des traits guerriers et nationalistes. Il serait puissant, surtout par sa parole et par sa crainte de Dieu. Le fait que Jésus ait tenu à monter non sur un cheval, qui était le symbole dans l'Ancien Testament du pouvoir, de la puissance des orgueilleux, mais sur un âne n'est pas seulement dérisoire. L'âne, c'est la monture du pauvre, mais elle a été aussi celle des pères d'Israël. D'après les récits des trois premiers évangiles, il semble que Jésus, avec le cortège qui l'accompagnait, serait allé directement de Jéricho à Jérusalem, où il était entré plusieurs fois, mais en silence, perdu, noyé dans la foule. Maintenant parvenu au terme de son dernier voyage, il ordonne lui-même à ses disciples de lui préparer cette entrée royale par laquelle il prend solennellement possession du royaume qu'il va fonder. Il sait que son heure est venue, que ceux qui ont cru en lui sont prêts à l'acclamer de leur hosanna. Et quant à ses adversaires, dont le parti est pris, il n'a plus à ménager leurs préjugés. Il s'agit là d'un moment décisif, d'un moment tragique dans sa vie, même s'il a des allures de comédie. À Bethphagé, en obéissant aux instructions précises de Jésus, ses disciples trouvent les choses exactement comme il les avait prévues et ramènent à Jésus sans difficulté l'ânesse et l'ânon dont leur maître avait besoin afin d'accomplir la prophétie de Zacharie qui le concernait et que nous avons entendu au début. Tressaille de joie, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi, juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. La pensée du prophète et celle de l'évangéliste, en nous décrivant l'humble monture du Sauveur au moment de son entrée royale à Jérusalem, est clairement indiquée par leurs expressions. Ils y voient le signe de la douceur, de l'esprit pacifique, de la pauvreté et de l'abaissement du Messie au moment même où il aurait pu aspirer à la puissance et à la gloire. Le Christ s'humilie. Il se dépouille lui-même pour accomplir parfaitement sa condition humaine, tout en étant entièrement obéissant et soumis à la volonté de son Père. Et il va recevoir à Jérusalem le sacre de la plénitude de son humanité et de sa divinité sur la croix qui sera dressée pour lui. Et qui donc est cet homme qui, par cette entrée royale, est acclamé par une population qui auparavant n'avait fait guère attention à sa parole et à ses œuvres? Quel est ce roi qui parvient par cette fête tragicomique à détruire les fausses espérances messianiques de son peuple? Telles sont les questions que se posent les foules à ce moment-là. Et elles tentent d'y répondre en ne voyant Jésus qu'un prophète. Il convient de souligner que cette même foule qui acclame le Christ lors de son entrée à Jérusalem réclamera peu après cette heure de gloire sa mort sur la croix. Or, bien plus qu'un prophète, cet homme est bien le roi des rois. Il est le Fils de Dieu. Il aura pour trône une croix et pour carrosse d'or un petit âne. Il importe, quant à nous, de nous situer par rapport à lui et à la foule. Sommes-nous de ceux qui crient « Hosanna » ou de ceux qui hurlent « à mort ». Peut-être nous reconnaîtrons-nous, n'est-il pas vrai, aux deux endroits, toujours déchirés entre le désir sincère d'être de vrais disciples du Maître et les difficultés qui nous empêchent de réaliser toujours et pleinement cette authenticité. Le Christ nous invite une nouvelle fois à le laisser toucher par son esprit d'amour et de compassion nos cœurs partagés et à le suivre sur la route du service, de l'abandon de nos désirs de puissance, à accepter de devenir d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, de la paix et de la réconciliation. En un mot, il nous exhorte à le suivre jusqu'au bout du chemin, sur le chemin de la croix, afin que nous puissions crier de manière vraie et humble « Hosanna au plus haut des cieux ». Amen.